de la Maison de la Radio avec Gilles Blanchard. À la réalisation, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Bruno Barada. À la programmation, Philomène Villard et Laura Dutèche-Pérez. À la préparation. Bonjour à tous. En attendant la réouverture des salles de concert et à l'absence des grands festivals, la grande table fête la musique. Et on ouvre cette semaine musicale avec la mezzo-soprano, chef de chœur suédoise Sophie Janin, directrice musicale de la maîtrise de Radio France depuis 2008. Depuis 2 ans, elle a par ailleurs pris la tête des BBC Singers. Elle est notre première invitée. Puis, 12h55, en route vers l'inconnu, première invitée de cette nouvelle série consacrée à la vie des idées, l'écrivain Jean Rouault, auteur de L'avenir des simples, c'est chez Grasset. Bienvenue à tous sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Sophie Janin.
Bonjour Olivia.
Bonjour, merci à vous d'être avec nous. La maîtrise est l'une des 4 formations musicales permanentes de Radio France avec l'Orchestre Philharmonique, l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France. À l'arrêt pendant le confinement, comme ses 3 sœurs. Sauf que, depuis début juin, les 2 orchestres ont pu reprendre le chemin des salles de répétition et de concerts, sans public bien sûr. C'est le programme Le Temps Retrouvé, tel qu'il a été pensé et imaginé, qui a débuté donc début juin, qui va courir jusqu'au 23 juillet. Mais ni le chœur, ni la maîtrise, quand est-ce que vous pourrez reprendre ?
Alors, c'est difficile encore de savoir exactement quand on va commencer à chanter ensemble. En même temps, on a été quand même assez actifs pendant toute cette période parce que à la maîtrise, les élèves sont en formation. Donc, on peut pas non plus juste cesser toute activité musicale. Donc, pour nous, c'était très important de maintenir un lien pédagogique, déjà par un petit travail à fournir, etc. Mais aussi, même le contact humain. Donc c'est vrai que moi je faisais des conférences toutes les semaines par exemple, et on a monté aussi des créations de 4 nouvelles pièces que les maîtrisiens montaient avec les moyens du bord, c'est-à-dire en enregistrant chez eux, et ça a été monté à Radio France pour pouvoir nourrir tout de même l'antenne et aussi nos esprits de nouvelles musiques.
Alors, on va écouter les élèves confinés de la maîtrise de Radio France qui nous présentent Les Chants de Loin, enregistrés depuis chez eux, des musiques originales écrites pour la maîtrise de Radio France avec ce premier chant, 3 choses composées par Moline Marchand sur les mots du poète brésilien Fernando Sabino. Certitude qu'il fallait continuer. Voilà ce que chantent les maîtrisiens à cet instant-là. Vous avez gardé des certitudes très solidement ancrées en vous durant cette période, Sophie Janin, ou est-ce que certaines de vos certitudes ont quand même été un peu ébranlées pendant ce confinement et cette crise épidémique ?
Oui, j'étais quand même très déstabilisée par rapport à ça et surtout comme on a des jeunes gens dont on est responsable, on aimerait tellement pouvoir donner des consignes réconfortantes, de dire que on va commencer à telle date, mais justement d'être dans cette incertitude, tout ce que je pouvais faire, c'est d'être parfaitement transparente, honnête avec les élèves, en disant que, écoutez, on va faire les cours à distance pour le moment, on travaille, et puis chaque semaine, même s'il y avait rien de nouveau, je leur disais que malheureusement, il y a rien de nouveau, mais, et puis, de garder ce contact humain, parce que je pense que déjà, ce qui est déstabilisant pour beaucoup de gens, c'est que l'être humain est un animal social. Mais en plus, quelqu'un qui est passionné par la pratique collective l'est peut-être encore plus. C'est-à-dire, pour les maîtrisiens, ils se sentaient vraiment très, très déboussolés de plus être dans leur famille de la maîtrise.
Et là, on a le son qui est par ailleurs très bon, mais comment vous avez procédé à distance? Parce qu'on n'a pas l'image, on ne sait pas comment vous avez dirigé, comment est-ce que vous avez assemblé ces voix?
Alors, tout d'abord, c'est mon collègue, un de mes adjoints, Morgane Jourdain, qui a coordonné ce projet en donnant des consignes. Donc d'abord, ils pouvaient s'enregistrer avec leur téléphone, s'ils avaient une tablette, et on faisait que le son. Dans une deuxième étape, on a fait la vidéo parce qu'on a aussi fait un montage avec ça. Mais pour le son, c'est vrai que les élèves ont envoyé leurs contributions. On essayait d'être le plus précis possible dans les consignes parce que, voilà, parfois on entend quand même un peu la vaisselle qui est faite derrière ou un petit frère qui pleure. Et puis après, on a quand même cette grande chance de travailler dans une maison où il y a des gens absolument incroyable pour faire un montage, pour mettre tout ça en boîte, pour monter, puis après mixer, et c'est un défi qui est quand même pas facile. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'en quelque sorte, j'avais vraiment l'impression de retrouver la maîtrise quand j'ai entendu cette première pièce.
Voilà, et c'est aussi une expérience sonore. La maîtrise est rattachée à Radio France, la maison de la radio, ce qui est important pour vous aussi, la radio qui s'est en partie éteinte sur certaines ondes aussi durant cette période de confinement, d'autres qui ont continué à pouvoir opérer mais à distance. Rares étaient ceux qui étaient autorisés, là encore, à venir en studio. Cette pratique virtuelle, elle a un précédent, non pas subi, mais choisi. Et vous allez me dire si je le prononce bien, Sophie Janin, Voix, ma chorale interactive, ou Vox, puisqu'il y a aussi un jeu d'écriture avec ce mot. Oui. Comment vous aviez pensé cet outil? Racontez-nous quel est le projet autour de cette chorale interactive.
Alors, Vox, c'est vrai que c'est une plateforme numérique dont on est très heureux, parce que je pense que quand on pense à Radio France comme service public, et on est aussi là pour avoir... en tout cas, encourager cette pratique collective, mais aussi pour démocratiser son accès. Et le côté positif de cet âge numérique, c'est quand même ça. C'est qu'on peut créer des choses à distance, des liens à distance, même si on peut pas physiquement être en place. Et c'est là aussi où j'espère que une des leçons qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on peut aussi nourrir nos concerts futurs avec un streaming beaucoup plus vaste, où on peut justement profiter de ces concerts à l'antenne, mais aussi pouvoir voir physiquement. Et Vox, il y a une caisse d'outils dedans pour tous les enseignants, pour les chefs de chœur, pour les enfants, pour les jeunes, pour les amateurs adultes, des échauffements, des pièces de répertoire, des partitions, des exemples de beaucoup de choses, et des partitions surtout très accessibles pour le milieu associatif.
Est-ce qu'on peut tous chanter, Sophie Janin?
Oui. On peut tous chanter. Ça dépend comment et voilà, je pense que quand on me dit je ne sais pas chanter, je chante faux. Apparemment, scientifiquement, de pas pouvoir chanter juste physiquement est aussi rare que de pas pouvoir voir les couleurs. Donc finalement, c'est un phénomène très rare. Après, c'est une question de pratique justement et de familiarité avec le chant.
Mais c'est aussi une question de grain et de don, non? Vous ne pensez pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir faire de sa voix un instrument? Les maîtrisiens, vos maîtrisiens, comme vous les appelez, est-ce qu'ils ont des qualités particulières qui leur ont permis d'intégrer cette maîtrise de Radio France?
Oui, ça c'est vrai aussi. Après, quand on commence à avoir un petit peu ce qui est le don, on va dire, de chacun, c'est vrai que nous, on repère quand même des enfants qui ont déjà un talent.
Des dispositions.
Il y a des dispositions, plus juste. Ça c'est sûr. Et on voit aussi un potentiel, on voit aussi un enfant qui a peut-être pas été canalisé dans une voie où il a pu développer ses compétences dans ce sens-là. Et puis, on voit aussi des enfants qui peuvent être extrêmement intimidés dans la situation individuelle, mais dans la situation collective, ils fleurissent. Donc, il y a aussi quand même le mental qui y joue. Je pense que de projeter sa voix seule, même parler devant des gens, c'est quelque chose qui effraie une grande partie de nous.
Deux antennes aujourd'hui pour cette maîtrise de Radio France. Les cours ont lieu à la fois dans les locaux de la maîtrise, à la cité scolaire Jean de la Fontaine, à Paris, dans le 16e, mais aussi désormais à Bondy, en Seine-Saint-Denis. On écoute le témoignage de deux élèves de cette maîtrise à Bondy. Ils y sont depuis leurs 7 ans. Ils s'appellent Sidi Mohamed et Sizoé.
La maîtrise, ça nous a vraiment donné cette envie de devenir toujours meilleur et d'apprendre plus de choses.
Mais en fait, la maîtrise, ça nous apporte plus que le chant. Parce que ça nous permet de rester concentré, de garder son calme en moments difficiles. De se contenir, ça nous apprend des choses sur la littérature. Ça, en anglais aussi, ça aide un petit peu. Parce que comme on chante un peu en anglais, bah, ça aide un peu.
Quand on dit on fait de la musique classique, les gens, ils pensent directement que c'est un peu les clichés, genre c'est des choses d'anciens, de vieux et tout. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça la plupart des gens. Parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent faire de la musique, mais avec l'effet de groupe, ils ont peur que leurs amis les délaissent. Voilà. Ça peut les empêcher parce qu'ils n'ont pas envie d'être différents, c'est ça.
Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur plusieurs choses. Ça m'a permis de comprendre plusieurs choses. Ça m'a permis de savoir chanter, de jouer du piano, de faire des concerts extraordinaires. Ça m'a permis beaucoup, beaucoup de choses, de faire des rencontres auxquelles je ne m'attendais pas.
Des témoignages recueillis par Cécile de Kervazoué il y a 3 ans. Ils nous parlent de ce que la maîtrise leur a apporté et ils évoquent à travers leurs mots. On entend aussi votre ambition pour cette maîtrise et ses élèves, l'ouverture, l'excellence. Vous devez, on l'imagine, concilier ces deux principes. Dansez vous aussi, Sophie Janin, un peu sur ces deux pieds. Les valeurs éducatives du chant, vous ne cessez de plaider pour ça.
Oui, absolument. C'est tout encore, je pense, dans la construction d'un chant collectif. On travaille tous vers un but commun. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Chacun met sa pierre à l'édifice pour créer cette image ensemble et on ose aussi créer quelque chose de beau. Et je crois que quand on touche à ça tous les jours, la vie, elle a quand même une richesse supplémentaire et elle devient aussi plus douce, je crois. Et pour des enfants qui vivent aussi dans des milieux qui sont pas toujours aussi doux et en tout cas si sereins, je pense que de se retrouver dans un univers qui à la fois est exigeant mais construit avec un cadre où on touche à la beauté, eh bien, je pense que c'est quand même très propice pour pouvoir développer sa concentration, son autonomie, sa camaraderie. Et justement, j'entendais la voix là de Sidi et Sizoué. Sizoué m'a écrit la semaine dernière en me disant que maintenant il a son bac et il vient de l'avoir là avec le confinement. Bon, il sortait le bac en poche et que il voulait se tourner vers les métiers du son. Il me demandait conseil vers où il pouvait se tourner. Je me souviens aussi de l'avoir vu à la maison de la radio. Il venait pendant ses vacances. Il se déplaçait jusqu'ici pour venir au concert. Parfois, on éveille aussi des passions. C'est assez beau d'entendre les garçons parler là.
Et de leur ouvrir les portes de cette maison de la radio, de la voix au son. On parlait des qualités des maîtrisiens. Quelles sont celles d'un bon professeur? Parce que vous, Sophie Janin, finalement pas mal de casquettes, celle à la fois directrice artistique de la maîtrise, celle de chef quand vous dirigez ce cœur d'enfants, et puis celle de prof quand il faut leur apprendre aussi ce qu'est une pratique vocale, ce qu'est un répertoire, etc., etc.
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs rôles à tenir. Après, j'ai quand même une très grande équipe pédagogique autour de moi. Donc, on a quand même des gens qui sont très spécialisés dans chaque domaine. Je crois qu'il y a il y a quelque chose qui rejoint le métier de pédagogue et le métier de chef de toutes les façons. Parce que quand on dirige un orchestre ou un chœur, un des atouts qu'il faut développer, c'est de pouvoir lire l'ambiance de la pièce, de la salle, et de voir quel individu se sent en fragilité, et qui va pouvoir être moteur, et comment réunir ses forces et les enthousiasmer dans quelque chose de constructif. Et je pense que le pédagogue traverse aussi ça dans son parcours, de voir comment on peut rendre le groupe optimal pour créer la confiance de tout le monde, pour construire avec les enfants. Je dois dire quand même que la faute de méthode, elle est tellement pas permise par rapport à d'autres contextes. C'est-à-dire que c'est important par quel bout commencer, d'avoir plusieurs clés pour essayer d'ouvrir ces portes des meilleures façons. Et là-dessus, on a un projet pédagogique et quand même une vision tous ensemble. Et on en parle tout le temps dans les conseils pédagogiques et entre les professeurs. On a aussi une responsable des études qui englobe tout ça chez nous, Marie-Noëlle Martin.
C'est des pédagogies évolutives ou cette pédagogie que vous appliquez aujourd'hui, c'est aussi celle par laquelle vous êtes ou à travers laquelle vous êtes passé pour apprendre, vous?
Non, elle est évolutive. Il y a des choses dont je me suis inspirée un petit peu. Moi, j'ai appris la musique sans contrainte et dans un univers très, très détendu, où on était tout le temps encouragé. Et j'ai vu un petit peu plus tard, où j'ai eu des professeurs qui voulaient exprimer leur exigence par une sorte de dureté et sévérité, et ça m'a jamais permise de m'exprimer au mieux. Donc je pense que j'ai tiré quelques leçons de ce que j'ai vécu, mais je crois que tout enseignant, comme tout musicien, on doit souvent se remettre en question et se dire où est-ce qu'on va maintenant, est-ce que mon projet pédagogique sert vraiment à ce que je veux obtenir artistiquement. Quand on parle de libérer son corps, de bouger dans l'espace, de oser prendre des risques, c'est tout un travail assez global et transversal qu'il faut construire pour permettre ça.
Sophie Jeannin est notre invitée jusqu'à midi et demi. Il est déjà midi 17, on n'avait pas vu l'heure. Cet album CD, Nous n'irons pas à l'opéra et Aimez-vous Bach, est sorti numériquement début avril en attendant une présence physique dans les Bachs avec ces deux pièces pensées par Julien Joubert pour Nous n'irons pas à l'opéra et Gaël L'épingle pour la seconde avec les voix de la maîtrise de Radio France avec deux timbres différents, les écoliers dans cet extrait de la pièce qu'on vient d'entendre, Nous n'irons pas à l'opéra et les collégiens pour Aimez-vous Bach et puis vous avez fait participer des voix de la radio, celle de nos confrères de France Inter, les humoristes Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, un projet partagé. Qu'est-ce qui a guidé cette envie-là, ce choix-là?
Julien Joubert, qui a composé ces deux ouvrages, est un compositeur qui a été beaucoup chanté par la maîtrise de Radio France. Je pense qu'il y a une grande difficulté d'écrire avec raffinement, avec esprit, avec humour, avec légèreté. Et il fait partie des compositeurs qui gèrent ça et qui le maîtrisent vraiment de façon assez époustouflante. On veut, à la maîtrise, bien évidemment défendre de répertoires très complexes, chanter des choses que d'autres chœurs d'enfants ne peuvent peut-être pas chanter, mais on veut aussi créer des pièces, on va dire, transportables, de aider à la diffusion des pièces qui sont chantables par d'autres chœurs d'enfants pour encourager du nouveau répertoire, un élargissement du répertoire. Et ce qui est très chouette dans ces pièces-là, c'est que les enfants sont les protagonistes. On est dans un milieu scolaire. Ils ont la complicité de leur maître d'école, leur maîtresse d'école dans la version avec, dans certaines versions, ça dépend en fait, chaque mise en scène est différente, ou avec leur professeur de collège pour Aimez-vous Bach. Et j'aime beaucoup cette complicité-là entre enfants et adultes. Il y a un côté espiègle très drôle, et puis comme on a entendu là dans l'extrait, dans Nous n'irons pas à l'opéra, il y a quand même aussi des citations de presque 30 opéras qui sont nouées à l'intérieur de la texture de la musique, et ça c'est amusant aussi, on peut jouer les détectives un peu.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
France Culture fête la musique toute cette semaine autour de la Grande Table avec Jean-Michel Jarre, demain avec Éric Truffat, avec Rodolphe Burger, et aujourd'hui pour ouvrir cette semaine, la chef de la maîtrise de Radio France, c'est Sophie Janin qui est avec nous jusqu'à midi et demi. À propos de chef, le 8 décembre à la Maison de la Radio sera également donné un concert événement pionnière autour d'œuvres de compositrices de toutes les époques. Quelles sont vos pionnières à vous, Sophie Janin, alors à la baguette ou à la composition? Est-ce que vous avez des femmes qui vous ont influencée?
Oh oui, plein. Déjà au niveau de la composition, j'ai dû chercher un petit peu, parfois, quand même, pour les trouver, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas été toujours très mises en avant. Et il y a une compositrice suédoise, Elfrida André, qui était la première femme qui avait des postes d'organiste titulaire. Elle a écrit des symphonies, des pièces de musique de chambre absolument incroyables. Je suis devenue assez fascinée par elle dans mon adolescence. Et puis plus tard, je suis arrivée, c'est grâce à Mendelssohn que j'ai découvert Fanny Mendelssohn, ou grâce à Schumann que j'ai découvert Clara Schumann. Donc parfois, c'est arrivé comme ça au fur et à mesure, mais l'avantage de travailler en tant que musicien, c'est qu'on rencontre aussi les gens de notre temps. Donc c'est vrai que des compositrices comme Kaija Saariaho, dont on va faire une pièce en décembre, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé aussi directement, et de parler de sa musique, et ça c'est le bonheur avec n'importe quel compositeur, mais en tout cas ça nous aide aussi à découvrir les femmes qui sont là.
Du coup, vous les faites entrer au répertoire de la maîtrise de Radio France aussi?
Depuis toujours, ça a été important. Là, en effet, on n'a que des femmes compositrices, mais ça ne veut pas dire que dans d'autres programmes, on n'en met pas. C'est-à-dire on met toujours des femmes compositrices. Et je pense qu'il faut toujours avoir un regard très, très critique et autocritique là-dessus. Il faut regarder même aussi bêtement que les statistiques parfois, et regarder combien de pourcentage pour vraiment s'assurer à ce que les femmes soient représentées.
Sur les chefs d'orchestre, la Maestra, c'est un concours qui a été lancé justement pour inviter les femmes à gagner en visibilité, les mettre en lumière aussi à cette place-là, avec ces statistiques qui sont quand même assez parlantes, sur près de 800 orchestres symphoniques permanents dans le monde, 48 seulement ont une directrice musicale, une chef à leur tête, ça fait moins de 10%, un petit 7% environ, ça progresse tout doucement. Vous sentez des vocations qui sont aussi quand même en train de naître?
Oui, je pense que les temps changent, heureusement. Après, il y a il y a une difficulté, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des initiatives qui pour moi sont extraordinaires. Par exemple, Marine Alsop qui dirige elle depuis longue date, qui a créé une masterclass à Dallas pour des femmes et qui après ça il y a un vrai débouché sur quelque chose. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de circonstances où on encourage les femmes chefs d'orchestre, tout ça. Et parfois, ça fait presque un peu ségrégation aussi. Et l'idée, c'est quand même que les garçons et les filles travaillent ensemble depuis le plus jeune âge pour qu'on puisse s'identifier dans les deux rôles. Mais non, les choses avancent et j'ose espérer que bientôt, ça sera pas un événement qu'une femme arrive à la direction de l'orchestre, mais ça sera quelque chose de normal. C'est ce qu'on disait à Nadia Boulanger. On lui disait, mais est-ce que c'est étonnant de diriger un orchestre ? Elle a dit, écoutez, j'ai été femme pendant 50 ans, je suis plus très étonnée aujourd'hui.
Mmh. Vous l'évoquez aussi, peut-être cette question des inhibitions qu'on peut retrouver chez les chanteurs de la maîtrise. Les jeunes chanteurs se retrouvent à ces postes très en vue que peut-être celui de chef d'orchestre. Vous pratiquez à Radio France, à travers la maîtrise, mais aussi, vous avez rejoint depuis quelque temps les BBC Singers à Londres. Est-ce que c'est des approches culturelles très différentes de la maîtrise, mais aussi surtout de la pratique chorale?
Oui, il y a des traditions qui sont quand même très différentes. Je pense que en Angleterre, il y a quand même cette grande tradition vocale qui était pour longtemps quand même très affilié à une pratique religieuse. Je viens de Suède où il y a une pratique dans la tradition populaire aussi qui est très très forte.
De la musique chorale, des fanfares aussi, hein.
Et oui, oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette pratique collective, mais la France aussi a son histoire. Et je pense que dans différentes régions, on peut voir des différentes traditions aussi. Ce qui est difficile pour la pratique chorale en France, cette continuité a pas pu exister de la même façon, parce que il y a déjà eu une coupure avec l'église, qui était quand même un lieu où les gens chantaient, mais également une coupure avec les traditions régionales, qui était aussi une façon d'exprimer son identité, hein, en chantant ensemble. Et maintenant, on est dans une construction d'autre chose. Et c'est très intéressant, justement, de travailler dans des pays différents et de voir d'où les gens viennent. Mais la France, il y a de l'effervescence, je trouve, parce que, justement, il y a des choses à construire.
La Suède qui a fait un autre pari que ses voisins, hein, sur la question épidémique, celui du non-confinement, qui n'est pas encore parvenu à contrôler l'épidémie. Ah, je ne sais pas si vous avez des nouvelles de vos proches qui vont... Oui, vous avez quelques nouvelles,
oui,
qui arrivent de Suède quand même.
Oui. Oui, c'est difficile. C'est toujours difficile de savoir comment réagir. La Suède est un petit pays, très grand en surface, très petit en population. Mes amis dans la musique sont dévastés, comme partout, parce que quand même, ces pratiques-là ne peuvent pas avoir lieu de la même façon. Des artistes lyriques qui sont, voilà, tous les contrats annulés, etc. Mais les enfants qui sont allés dans les écoles, il y a quand même un côté positif aussi. C'est que les enfants ont eu une continuité avec l'enseignement et peut-être même un oasis de bien-être dans la journée. Et ça a rassuré aussi beaucoup de mes proches. Mais c'est pas facile. Mais on voit les pays sont différents. Le premier ministre suédois peut dire, on vous recommande de ne pas sortir, les Suédois vont pas sortir.
Oui, parce que, alors ça, c'est la discipline des uns et des autres, là encore, différence culturelle, et on terminera là-dessus. C'est vrai qu'on, quand je vous demandais en ouverture, quand est-ce que la maîtrise revient, se pose encore pas mal de questions aujourd'hui, et notamment celle de la propagation du virus dans un cœur. Est-ce que la voix est porteuse, la fameuse question des postillons, on en a discuté beaucoup autour des instruments avant, tout ça reste encore irrésolu, elle est là aussi l'incertitude. Pour vous.
Oui, mais en même temps, je trouve qu'il y a une mobilisation formidable parce qu'on est en train de faire des études, de refaire des études pour voir. Nous, on a déjà des choses en place pour pouvoir chanter, par exemple, pour le concert du 14 juillet, en respectant les distances, en restant loin des uns des autres, en pas restant dans des espaces fermés. On peut aussi, on fait des protocoles quand même avec la plus grande prudence et on est tout le temps en train de réévaluer et réétudier. Donc, On est dans de bonnes mains, je pense.
On vous retrouvera en toute sécurité donc pour ce concert de Paris le 14 juillet. Merci beaucoup à vous, Sophie Janin, d'avoir été avec nous. Merci.
Merci.